Chapitre 11. Gyrophare allumé et sirène hurlante, une voiture de police roule entre l'agence de détective Kent sur Nora Stationsgatan et le poste de police de Kungsholmen, où deux techniciens l'attendent devant la porte vitrée. Ils interceptent le colis et le placent avec précaution dans un grand carton qu'ils remettent ensuite à une équipe de démineurs. L'équipe lâche d'abord un chien qui renifle avidement le carton. Puis elle le passe au détecteur d'explosifs et en examine enfin le contenu au rayon X. Rien d'autre qu'un petit morceau de métal. Les techniciens récupèrent le paquet, se précipitent dans le hall, passent la sécurité et prennent l'ascenseur pour descendre au laboratoire où les enquêteurs attendent déjà en combinaison de protection. Le silence règne pendant que l'un des techniciens sort le paquet adressé à Saga Bauer, confié à l'agence de détective Kent, le pose sur la table lumineuse et commence à prendre des photos. Une série d'empreintes est visible, probablement due à la manipulation du courrier. Une technicienne aux yeux verts découpe soigneusement le dessous du carton à l'aide d'un scalpel, en sort une boule de papier froissé, la déplie et découvre une petite pochette de tissu en coton blanc. « Dépêche-toi !» la presse Greta d'une voix tendue. Pendant que tous ont les yeux rivés sur la femme qui déplie la pochette, deux autres techniciens cherchent des indices à l'intérieur de la boîte et de l'emballage. « Allez, c'est parti !» s'impatiente Peter, le visage crispé. « On ne sait pas de combien de temps on dispose pour identifier la prochaine victime, mais on est pressé !» Continuez à chercher des empreintes. Il doit bien y avoir quelque chose, dit Manvir d'une voix angoissée. Le microscope. Allez, allez. Attention, prévient Peter. Avec prudence et concentration, la technicienne déplie le tissu. Une figurine en étain de 2 cm de long apparaît. À l'aide d'une pince à épiler, elle la place sur la lame du microscope. Les 5 inspecteurs se rassemblent autour de l'appareil, tandis que la technicienne ajuste les réglages. L'écran luit d'une lumière grise et terne. La tête de la figurine est hors champ, mais le corps est vêtu d'une chemise à manches courtes avec des épaulettes et un emblème sur la manche droite. « Un policier », constate Juna. La figurine porte un ceinturon avec une arme et une matraque et tient sa casquette dans une main. La femme aux yeux verts ajuste le microscope de façon que la petite tête soit visible, puis elle cède sa place aux enquêteurs. Tous regardent le visage grossièrement modelé de la figurine. Celle-ci porte des moustaches, des cernes sous les yeux, et de profonds sillons nasogéniens encerclent sa bouche. Son cou est épais, ses oreilles petites, et elle a 2 drôles de bosses sur son crâne chauve, comme des débuts de cornes. « On a 35 000 policiers parmi lesquels choisir », murmure Manvir en se penchant en avant. « Putain, qu'est-ce qu'on fait ?» s'étrangle Peter. Le visage de Saga est blême. Elle fait un pas en arrière. Juna lève les yeux du microscope et la regarde. « Bon, écoutez, ordonne Manvir. On se dépêche et on les diffuse sur Raquel. »« Saga, tu le reconnais, n'est-ce pas ?» demande Juna. « Je crois que c'est un collègue de City Normalm. Simon Bierke. »« Simon Bierke ?» « Qui est-ce ?» l'interroge Manvir en retirant son masque. « Tout ce que je sais, c'est qu'il a fait appel à l'agence il y a quelque temps. « Tu as l'air sûr de toi, » constate Greta en la regardant avec intensité. « Oui, » acquiesce Saga. « Vraiment ?» Il était dans la même promotion que moi à l'académie de police. « Ça nous donnera peut-être le temps d'avance nécessaire pour le trouver avant qu'il ne soit trop tard. » dit Juna. Ok, maintenant on se dépêche. Les presse Manvir. Tous les 5 se précipitent hors du laboratoire et ôtent leurs vêtements de protection. Peter se débat avec sa combinaison qui s'est coincée dans une de ses chaussures, Manvir fourre ses gants jetables en latex dans sa poche en passant la porte. Pendant qu'il traverse le couloir, Peter obtient l'adresse du domicile de Simon Bjerke, son numéro de portable et son numéro de fonction. Il tente de l'appeler sur sa ligne, tandis que Manvir essaie de le contacter via le réseau interne Raquel. « Je vérifie avec le central », informe Greta. L'opérateur de garde répond aussitôt et lui explique que Simon Bjerke est en service. « Silence !» crie-t-elle en mettant le haut-parleur. « Où se trouve-t-il exactement ?»«
Je vois que Simon et son collègue Aaron Shakor ont répondu à une alerte à Orsta à l'instant.
Et de quoi s'agit-il ? » demande Greta en s'arrêtant dans le couloir.
« On a reçu un appel concernant un groupe d'hommes qui s'en prenaient à un magasin halal.
En ce moment, ils sont donc sur place. Vous pouvez nous mettre en contact avec eux ?» demande Greta.
« Impossible. Ils semblent avoir coupé leur communication. » répond l'opérateur.
« Envoyez des voitures !» ordonne Juna.
« Il y en a à proximité ?» demande Greta en courant dans le couloir.
« Je vais vérifier. Oui, on en a une du côté de Globen et une sur la route d'Ostberga, près de Horstfeldt.
Envoyez-les là-bas !» Les cinq inspecteurs courent la dernière distance jusqu'aux ascenseurs.
« Je file sur place !»
lance Juna en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. « C'est quoi le plan ?» demande Peter. « Arrivez avant lui cette fois-ci !» répond Saga.
« Simon est probablement en sécurité tant qu'il est avec son collègue !»
tente de les rassurer Manvir.
« Je l'amène ici !»
dit Juna en ouvrant la porte de la cage d'escalier. « Je peux venir avec toi ?» interroge Saga.
« Juna est le seul à être autorisé à travailler en opérationnel !» rappelle Manvir.
« Putain !» Le bruit des pas rapides de Juna disparaît dans la cage d'escalier alors que la porte d'acier se referme dans un bruit sourd.
« Remontons là-haut et sortons tout ce que nous avons sur Simon. Nous devons établir son profil complet !»
dit Manvir d'une voix tendue en appuyant à nouveau sur le bouton de l'ascenseur.
« Pourquoi Simon Bjerke ? Pourquoi quelqu'un voudrait l'assassiner ?»
demande Greta.
« Tu as une idée, Saga ?»
Juna double un camion-citerne, passe devant Liljeholmen sur la Europa Weg 20, se range sur la voie de gauche et prend la route 75 au niveau du viaduc de Södertälje-Leden. Deux voitures de patrouille sont déjà arrivées sur les lieux et bouclent le périmètre.
Juna tourne dans la zone industrielle qui s'est développée autour du terminal de transport combiné d'Ørsta,
passe devant un vieil hôtel Best Western, un Burger King et une grande pompe à essence avec une station de lavage. Il aperçoit enfin les pulsations de la lumière bleue d'une voiture de police balayer l'asphalte et les bâtiments. Des commerces de gros, d'énormes bennes à ordures et des quais de chargement s'alignent le long de la route. Juna s'arrête devant une voiture de police qui bloque la voie. Le barrage s'est déployé sur une large zone. Il quitte sa voiture et se précipite vers un policier en uniforme pour s'identifier.
« On vient de nous informer que vous arriviez »,
dit l'homme. « Que se passe-t-il ? » ?»«
On ne sait pas vraiment. Les collègues ont été appelés pour une bagarre ou un cambriolage, et ils sont apparemment là-bas. La dernière communication reçue par le central disait que ça s'était transformé en prise d'otage et qu'on devait attendre. Rien depuis. »
Un panneau vert clair et blanc indiquant « grossiste en viande halal » est vissé sur le toit qui surplombe la façade, à côté d'un emblème rond, vert et noir. Les murs sont en briques jaunes. La porte en acier est fermée et les trois petites fenêtres ont les stores tirés. Une large bande de rubans adhésifs flotte dans l'air depuis le système de ventilation pour chambre froide fixé sur le toit plat. Des vieux bacs et des armoires de congélation sont entreposés entre le parking et le bâtiment.
« Vous avez regardé à l'intérieur ?»
demande Juna. « On a reçu l'ordre d'attendre le groupe d'intervention. » La voiture de police de Simon et Aaron est garée dans le parking entre une Hyundai argentée à l'emblème du grossiste en viande et une vieille camionnette rouillée.
Ils sont là dans combien de temps ?
25 minutes.
Ok. J'ai besoin que l'un de vous se poste à l'arrière du bâtiment et qu'un autre se place sur le toit à côté.
Explique Juna en retournant à sa voiture. Il ouvre son coffre, sort son gilet pare-balles et l'enfile. Derrière lui, une femme parle à un policier, l'air choqué.
« Vous n'écoutez pas ce que je vous écouterai quand vous serez venu avec moi !»
répond le policier d'une voix tranchante.
« C'est mon père qui... Mais vous ne pouvez pas rester ici. La zone est bouclée. »
Juna ferme son gilet, se retourne et voit le policier qui tente d'empêcher la quinquagénaire de s'approcher du magasin Halal.
« C'est l'entreprise de mon père !»
poursuit-elle.
« Les réfrigérateurs sont tout neufs. Le système de ventilation aussi. C'est tout ce qu'il possède dans la vie. Lâchez-moi ! J'ai le droit d'être ici !»«
Non, vous n'avez pas le droit. C'est... » Juna fait le tour de la benne à ordures jaunes et n'entend pas la suite de la phrase. Mais la femme est toujours aussi bouleversée quand elle répond.
« Ok, je viens avec vous si vous m'écoutez, » dit-elle. « Mon père est à l'intérieur. C'est un vieil homme. Vous comprenez ? Il le harcèle. Vous devez faire quelque chose. Ils sont trois, ils ont des armes et... »
Elle s'interrompt lorsque des cris leur parviennent depuis l'intérieur du magasin. Des bruits secs contre le mur... Le fracas d'une chute. Puis le silence.